merci d'être là pour m'écouter. Je vais vous présenter un petit package Max que je développe pour, dans le cadre de ma thèse. Donc c'est open source, c'est sur mon GitHub. Je n'ai pas mis le lien, mais je pourrais le mettre après. Et du coup, je vais vous donner un petit peu le contexte de tout ça. En fait, moi, je suis en train de finir une thèse en ce moment. Donc voici le titre. Donc, mon objectif, en fait, c'est vraiment de se poser la question de quels sont les outils dont on a besoin de développer dans le cadre d'un spatialisateur, on va dire en général, pour les besoins à la fois qui soient artistiques et qui soient techniques. Et donc, je développe pour ça un logiciel, c'est une thèse qui est de chiffres, qui est fait du coup entre un labo, qui est le labo du CICM, qui est rattaché à Paris 8, et du coup une entreprise, donc à l'origine Amadeus et maintenant à Holophonix, qui est une entité à part. Et donc, du coup, le Holophonix, c'est un projet qu'on fait en partenariat du coup avec l'IRCAM. Donc, je vous fais un petit peu l'écosystème de tout ceci. On a bien sûr l'IRCAM qui travaille sur le SPAD depuis déjà très longtemps, qui a des relations avec Amadeus depuis, je pense, au moins presque 40 ans maintenant sur le développement d'enceintes dédiées à l'utilisation de l'IRCAM, même depuis les débuts de la WFS, etc., enfin à l'IRCAM. Et du coup, vers 2015-2016, il y a plusieurs événements concordants qui ont fait que le projet Holophonix s'est lancé. On était à la fois à un moment où l'IRCAM utilisait beaucoup le Sonic Emotion pour la WFS, vous savez, à l'escro. Sonic Emotion a fini par déposer le bilan. Ça faisait déjà quelques temps qu'en fait, on avait les capacités dans les ordinateurs de personnel de faire les rendus de la WFS. Et donc, il y avait une réécriture de la WFS qui s'est faite dans le SPAT, parce qu'au début, du coup, le SPAT ne faisait que le contrôle de la WFS et il y avait du coup du processing dédié pour faire le calcul de la WFS. À la même époque, du coup, Amadeus avait déjà fait beaucoup d'installations de théâtre en WFS avec ce fameux processeur Sonic Wave One. Et d'un autre côté, Thibaut et quelques ingénieurs du son de l'IRCAM avaient lancé le projet Panoramix, donc une version, on va dire, structurée du SPAT, de l'audio, dédiée à faire une station de spatialisation pour le spectacle vivant et qui peut être utilisé par des techniciens aussi bien que des artistes et qui est plus simple à mettre en place sans avoir besoin d'être un maxeux, on va dire. Donc voilà. Et donc moi, je viens de me mettre dans cet environnement-là. Et petit à petit, au début, j'ai commencé juste à développer un petit peu Holophonix au moment où je suis arrivé. Et maintenant, j'ai plutôt pris le lead et c'est moi qui développe majoritairement Holophonix du côté, du coup, Amadeus Industrie, on va dire. Donc, IRCAM nous fournit un exécutable DSP et tout ce qui est le reste du système d'exploitation, des interactions avec le serveur, en OSC, etc., c'est fait du côté du logiciel Holophonix. Pour cela, je fais souvent des prototypes, en fait, avant de me lancer dedans. On travaille avec des théâtres, avec des utilisateurs, avec plein de projets différents qui nous font remonter des problèmes, qui font que souvent, je dis, du coup, l'IRCAM, avec le SPAT, travaille plutôt sur la partie, on va dire, recherche fondamentale sur les algorithmes. Et nous, on va les tester, les mettre en pratique dans le réel, sur des festivals, dans des théâtres, dans des lieux de spectacle. Et ça nous fait des remontées aussi de terrain qui nous permettent de faire évoluer les choses. Et ça nous donne des idées de prototypes, des idées de choses qu'on aimerait avoir dans le futur, dans l'univers global, on va dire, avec tout ceci. Et pour cela, je développe du coup cette librairie open source dans Max qui s'appelle AZ, parce que du coup c'était à la fois pour signifier quelque chose d'un peu plus personnel par rapport au reste, on va dire, la partie Holophonix SPAT, c'est ce qu'on essaye de faire qui va se généraliser à tous les utilisateurs. Là, c'est quand même une approche qui est plus personnelle. Et puis aussi, c'était un peu tous les outils dont j'ai eu besoin, donc de A à Z. Et puis c'est mes initiales. Donc voilà, ça faisait plusieurs raisons qui faisaient que je trouvais ça assez rigolo de faire ça comme ça. Donc voilà, là j'arrive à peu près à la fin de ce travail de thèse, ou bon, une version du package. Et je voulais me concentrer sur cette présentation, sur une seule idée qu'il y a eu une des idées qu'il y a eu dans ce package, et que j'ai beaucoup utilisé à cette fin, c'est comment on conçoit des dispositifs spatialisés. Donc là, bien sûr, je parle d'un certain type de dispositif spatialisé, plutôt qu'on est dans une approche mixage objet, etc., parce qu'il y a plein d'autres manières de le faire, si on fait des acousmoniums, si on fait d'autres choses. Mais là, pour ce cas d'usage-là, comment on peut faire? Parce que au cours de ma thèse, du coup, j'ai été amené à travailler sur beaucoup de projets très différents, beaucoup d'installations et de manières de travailler le contenu immersif, le contenu spatialisé différent. Donc là, je vous en présente quelques-uns juste pour donner des idées de ce type de projet. Et après, on va parler de comment on peut faire pour concevoir et quels sont les outils du coup, qu'on va pouvoir mettre en place pour faire cette chose. Donc là, voilà, le premier projet, par exemple, que j'ai fait en commençant ma thèse, c'était une pièce In nomine Lucis qu'on a fait au Panthéon. Donc c'est une installation pérenne qu'on a fait avec le compositeur Pascal Dussapin. Donc on est vraiment sur un dispositif, vous voyez ici, on a presque, on a 70 enceintes, quelque chose comme ça, dans les corps niches, dans la coupole, donc il y a un vrai côté de jouer avec l'acoustique du Panthéon qui fait jusqu'à 24 secondes dans les basses fréquences, 7 secondes dans les hautes fréquences, donc on est sur une installation qui est plus un instrument qu'un dispositif de production. Tout à l'inverse, ce projet, par exemple, à la cour d'honneur, donc je me suis occupé de faire le dispositif et puis le calage du dispositif de renfort sonore spatialisé pour la cour d'honneur, donc pour ce qu'on appelle le sixième gradin, quoi, qui a été conçu ces dernières années. Et donc, il y avait un cahier des charges de dire on a 2000 personnes dans les gradins pour faire de la voix parlée dans un bâtiment qui est globalement en fait une cathédrale à ciel ouvert. Et donc, vous imaginez des problèmes assez importants acoustiques de base pour diffuser la voix. Et une volonté en même temps de dire, on a envie quand même de savoir qui parle. Parce que du coup, vu les dimensions, là, on est sur un plateau qui fait plus de 40 mètres de large. Vu les dimensions, souvent, les compagnies qui elles sont accueillies, les spectacles sont représentés, c'est des spectacles qui sont avec beaucoup de comédiens en même temps. Et du coup, le soir, quand on est tout là-haut, on est à 70 mètres des comédiens. Donc, en fait, les gens, ils vont tout petits. Et souvent, il y avait le retour de dire, c'est bien, mais on ne les voit pas et on ne sait pas qui parle. Et avec les dispositifs, les essais qu'il y avait eu avant, par exemple, il y avait eu une idée de mettre 2000 enceintes, une pour chaque personne dans le public. Donc chacun avait son petit retour mono face à soi. Il disait, on entend à peu près les voix, c'est pas mal, mais par contre, on ne sait pas du tout qui parle. Donc il y avait vraiment cette volonté de dire, comment on peut concevoir un dispositif dans ce cas d'usage qui se permettent de garder à la fois l'intelligibilité et la localisation des comédiens. Donc on a vu installation immersive, renfort sonore spatialisé. Donc un troisième exemple que je voulais présenter pour donner des idées, c'est sur le Festival d'Aix-en-Provence. On travaille depuis quelques années du coup au Théâtre de l'Archevêché. Donc là-dedans, moi j'ai été chargé d'imaginer un dispositif qui mélange à la fois acoustique actif et sonorisation spatialisée, pour vraiment penser comme un outil à destination du chef d'orchestre, qui puisse lui permettre d'augmenter son opéra, et de travailler avec lui pendant les répétitions, faire du calage perceptif, que ça devienne vraiment un outil à part entière de la composition de l'opéra. Voilà, et puis dernier exemple que je donne, c'est juste pour donner des idées d'installations qui peuvent exister. Donc là, c'était par exemple pour la Biennale de Venise. Donc on monte pendant un mois, tous les jours, des installations différentes, des choses très adaptées à chacun des projets. Donc là, je vous donne un exemple, c'est un dôme immersif, finalement assez classique, qu'on peut retrouver à l'IRCAM, mais on a aussi des choses qui vont être frontales, qui vont être tout ça. Donc en fait, on voit que juste dans les exemples que j'ai donnés ici, on a des choses qui sont très diverses sur les dispositifs de spatialisation, quand bien même on reste dans cet aspect mixage-objet. Donc on a des dispositifs qui vont être très frontaux pour de la sonorisation spatialisée, des dispositifs immersifs pour de l'acoustique actif, des dispositifs qui jouent avec l'acoustique d'un lieu, etc. Donc comment on peut entamer la création de ce type de dispositif? Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je propose une méthodologie, on va dire, qui peut permettre de répondre à cette problématique pour des dispositifs de ce type. Et donc, voilà, donc vous voyez réparti en trois couleurs. Globalement, on a une première partie que j'appelle, moi, la génération. Donc, on va récolter des informations sur le lieu, on va commencer à imaginer où est-ce que je peux mettre mes enceintes, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. On va aller dans le détail après, pour l'instant, je fais juste un overview de cette idée. On va valider qu'on ne fait pas n'importe quoi en regardant en 3D ce qui se passe, en essayant de voir si ça a l'air de faire du sens. On propose des réglages ensuite sur ce dispositif en disant, bah voilà, sur ma zone frontale, j'ai plutôt envie de travailler avec ce type d'algorithme, avec ce type de réglage. Et ensuite, on va avoir toutes des étapes d'analyse qui nous permettent de vérifier si on ne fait pas n'importe quoi, si déjà en prospectif, on arrive à montrer que les choses vont marcher ou pas marcher. Et puis à la fin, on va mettre en place des dispositifs dans la vraie vie, on va confronter au réel. Donc c'est la zone en rose. Donc soit par l'écoute, soit par la mesure, ou les deux en même temps. Et vous voyez, à chaque fois, il y a des petites flèches. De base, on va de gauche à droite. Et tant que tout se passe bien, et ben, on continue d'avancer. Et s'il y a un souci, ou qu'on a envie de proposer une alternative, et ben, du coup, on peut revenir en arrière jusqu'à une des étapes précédentes et du coup proposer une évolution, une itération sur le dispositif. Et donc, on va essayer de passer cette méthode, ces étapes, et je vais en profiter pour présenter des outils qui ont été développés dans le cadre de ce package Max et d'autres outils qui ont été développés du coup, aussi dans le Phoenix, et puis voilà, faire peut-être une petite démo au passage de certains des outils. Donc voilà, bon, là, je passe très vite. En général, on a des informations qui sont très diverses. On a des modèles 3D qui peuvent venir d'un architecte, on a des plans, on a parfois juste des photos. Donc ça peut être très divers. À partir de ça, on commence à se dire bon, comment je peux imaginer des positions d'enceinte dans ce lieu. Donc en général, on a deux approches là-dessus. On va dire qu'il y a des approches qui sont plus des approches idéalistes de studio, de recherche, où on dit j'imagine un monde idéal où je pourrais avoir une sphère parfaite de haut-parleurs et j'aimerais essayer de le plus possible conserver ce dispositif et de l'adapter à ma salle. Donc c'est ce qu'on va trouver souvent dans des studios de recherche. Par exemple, l'ESPRO à l'IRCAM, c'est ce qui s'est passé, de dire quand on a monté le dôme de 80 haut-parleurs, comment on va le mettre en place. On part d'une forme idéale. Qu'on va ensuite, donc là, il y a plusieurs manières de faire des formes idéales. Ici, là, je présente sur la sphère, mais ça pourrait être sur d'autres exemples. Donc, avec différentes lois, donc vous voyez l'hyperinterpolation, enfin, il y a plein d'algorithmes. Et ensuite, on va commencer à se dire, donc après, je vais revenir là-dessus juste après, on va se dire comment on peut adapter cette forme idéale à mon lieu. Donc là, par exemple, je vous propose un outil qui permet par exemple de faire une projection de notre dispositif sur un volume. Et c'est vraiment ce qui a été fait pour l'ESPRO. Ils sont partis d'un algorithme qu'on appelle le Equal Area pour ce certain nombre d'enceintes. Ils ont modélisé en 3D le volume en fait, de l'ESPRO, projeté sur les murs ce dispositif. Sauf que comme vous voyez, généralement, on essaie de projeter une sphère sur un volume qui est un parallépipède, et du coup on se retrouve avec ces formes comme ça de cercles, d'arcs de cercles qui se développent. Et donc après, il y a différents algorithmes qui peuvent exister pour venir simplifier ce dispositif pour qu'il soit montable. Donc voilà, donc, je vais peut-être faire une petite démo de trucs qu'on peut faire là-dedans et présenter un outil à cet effet. Donc hop, je vais partir d'un preset vide. Donc là, je suis dans le Phoenix. J'ai un preset qui est totalement vide. Et je vais vouloir commencer à dimensionner des dispositifs. Donc, je vais juste activer ça. Alors, je vais avoir plein de messages d'erreur, mais c'est parce que c'est pas très grave. C'est des versions en cours de développement. Il va y avoir plein de rouges dans la console Max, mais c'est pas très grave. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, je vais dire un quantitatif, 42 enceintes. Voilà. Et donc, si on voit ici, ces enceintes, elles ont été générées sous une forme idéale. Donc il y a un concept aussi qui est assez intéressant là-dedans, c'est de se poser la question, j'ai mis tech, pour l'instant on va rester sur des dispositifs simples, c'est de se poser la question de la frontière avec le sol. Parce que parfois on a la chance de pouvoir faire des dômes complets, donc si je reviens dans la présentation, je crois que j'ai un exemple. C'est ce qui a été fait par exemple à Prism. Ils ont vraiment pris dans donc la sphère qui a eu de 42 enceintes, pris une forme idéale. Donc là ici c'est la forme d'un icosaédron, et se dire bah voilà, je prends une des harmoniques de cet icosaédron. Donc je crois qu'ils ont fait de fréquence de fréquence 3 ou 2, 42. Pierre ici le sait très bien. Et donc vous voyez ici, on a un icosaédron qui au départ a, je ne sais plus, 11 faces, et puis on peut augmenter le nombre de faces, mais le problème de ce type d'approche, c'est que on n'a qu'un nombre fini d'enceintes qu'on peut mettre dans cet espace, et on n'a pas une valeur qui existe entre 42 et 25, par exemple. Donc, on est obligé de faire des sautes. D'autres algorithmes, c'est celui qu'on utilise ici, permettent de répondre à des quantitatifs quelconques. Donc, quand j'ai rentré 42, je peux rentrer 43, et ça va aussi fonctionner. Et donc, ici, on a le résultat sur 43 enceintes, par exemple. Donc, ça, c'est un algorithme qu'on appelle Equal Array. Et vous voyez que c'est divisé en deux couleurs, parce que la plupart du temps, on n'est pas sur un dôme qui est complet, on va être sur une sphère, je veux dire, qui est complète, on est plutôt sur un dôme, et on va avoir une frontière avec le sol. Donc l'outil ici permet aussi de modéliser cette interaction, où on va pouvoir dire, on a un sol qui est à des hauteurs différentes, donc là pour l'instant on est ici, mais si je décidais de descendre d'un mètre, on voit que toutes mes enceintes du coup deviennent rouges, parce que j'ai descendu le niveau du sol, en fait, plus bas, si je peux revenir. Et donc ça peut permettre, dans un premier temps, on n'a pas de modèle 3D, mais de dire, j'ai un dôme, globalement, que je sais qu'il va faire 4 mètres, la hauteur de mon sol par rapport à mon point d'écoute, ça va être, disons, de 1,70 m. Et on peut commencer à voir qu'est-ce qui peut se passer là-dedans, comment mon dôme il va se placer dans l'espace. Donc je vais mettre des paramètres plus simples. Voilà, disons, on va prendre un quantitatif important juste parce que c'est plus visible. Voilà. Tac. Alors, ici, on voit, donc j'ai mis une centaine de haut-parleurs sur une sphère dite parfaite. On va faire un exemple comme si on était à l'ESPRO et qu'on voulait faire les opérations qui ont été mises en place pour dimensionner cette salle. On va ici virtualiser une zone de notre salle, et on va proposer du coup de pouvoir projeter nos enceintes sur cette zone. Donc je ne sais plus c'est quoi les dimensions de l'ESPRO, mais disons que ça va être quelque chose du genre de 25 mètres par 20 mètres, peut-être 15 mètres, comme ça on va faire un truc qui n'est pas des mêmes dimensions, et puis voilà, je vais mettre un truc comme ça. Et donc maintenant, si je prends mon dispositif, vous voyez qu'on peut on a une prévisualisation de quelle serait cette projection, et on peut ensuite décider de dire super, c'est un salle. Et donc j'ai projeté ici mes enceintes sur ce volume de cette salle. On trouve le problème que j'évoquais avant, c'est-à-dire ça va être autant en haut et en bas, ça peut être assez simple à monter. Sur les côtés, en général, on va avoir des difficultés à mettre en place ce type d'accroche. Donc, on peut venir, par exemple, décider de faire une sélection ici de cette zone. Et ici, l'approche que je vais proposer de faire, c'est d'aller dans des transformations et de dire, en fait, je veux prendre la valeur moyenne de toutes ces enceintes. Et on vient comme ça simplifier le dispositif, par exemple. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand on fait ces opérations, donc on est en train d'itérer sur notre dispositif, et au fur et à mesure qu'on itère, On peut venir ici, tac. On peut venir mettre à jour en fait le, l'analyse et lui demander bah, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait. Est-ce que, donc là je suis sur 121, donc je vais être à peu près à l'ordre 10 en Omisoni par exemple. Donc je suis en Omisoni 3D et je peux venir vérifier les valeurs de différents réglages. Donc, par exemple le vecteur énergie, la validité de, dans les directions de, des vecteurs énergie, des vecteurs de vitesse, des erreurs de localisation, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois que je vais venir itérer sur mon dispositif parce que je vois que je ne peux pas mettre l'enceinte à un endroit parce qu'il y a une porte, parce qu'il y a un mur, etc., on va, au fur et à mesure, pouvoir valider la cohérence du dispositif. Et donc, on peut aussi voir des valeurs, par exemple, le conditionnement. À l'ordre 9, j'ai un conditionnement de 4 dB, qui est quelque chose, une valeur très bien. En général, on dit qu'en dessous de 20 dB, on n'a pas besoin d'optimisation. Et ce que vous voyez ici, on a le rendu du coup, dynamique de nos analyses de l'algorithmie. Donc, on a du VBAP, de l'ambisoni, ce genre de choses. Une visualisation du placement en 3D des enceintes et une visualisation du placement pour le décodeur. Parce que pour la plupart de ces algorithmes, en fait, le décodeur, lui, il fait toute une abstraction sur une sphère de 1 mètre et il vient en fait replacer, il fait l'inverse de la projection qu'on a fait, en fait avant, il vient tout remettre au centre. Donc voilà, ça permet en fait d'éditer comme ça pour des projets comme vous avez vu, par exemple pour la Biennale, on a souvent ce type de dôme qui sont montés, c'est des outils qui sont du coup développés pour aider à cette mise en place du dispositif. Encore la semaine dernière, on me dit en fait, la lumière a besoin d'avoir un projecteur à tel endroit. Est-ce que si on déplace les enceintes à cet endroit, est-ce que ça marche ou ça marche plus? C'est difficile parfois de répondre. Donc là, grâce à ces outils, on peut commencer à avoir une idée de dire je préférais que tu mettes plutôt à 2,50 m plutôt qu'à 3 m parce que sinon, je commence à avoir un défaut de localisation, ce genre de choses. On peut aussi venir simuler par exemple un déplacement de l'auditeur. Donc si l'auditeur il est assis, allongé, debout, et du coup en décalant tout le dispositif et en recalculant les. Donc là j'ai changé d'un mètre par exemple la position en élévation de l'auditeur, et on peut voir du coup comment ça va impacter la qualité du dispositif. Donc vous voyez là on a perdu 3 dB sur la qualité de conditionnement, donc on sait qu'on va sur quelque chose qui va être moins bien. Bon. Là, avec 120 haut-parleurs, on est quand même sur un dispositif qui est vraiment idéal, et donc il n'y a pas trop de soucis, mais sur des dispositifs qui sont plus réduits, où parfois on a la limite en termes d'ordre de la qualité théorique, donc parce qu'on nous dit à l'ordre 4, il faut 25 enceintes, mais c'est la limite, et parfois en fait il faudra 30 enceintes, et parfois changer la position de l'auditeur, il faudra rajouter encore des enceintes pour avoir quelque chose qui est stable, ou alors passer à un ordre inférieur, ce genre de choses. Donc, de quoi ? 2 minutes. Bon, je vais très vite, du coup. Moi, je vous ai passé un peu les choses de manière très, très rapide. Donc, on a cette approche-là, des approches idéales. Et puis, on a des approches aussi qui sont plus manuelles. Donc, en général, on va recevoir des plans 2D. On nous dit, c'est comme ça que je pensais l'imaginer. Le fait de pouvoir le replacer dans l'espace, parce que là, par exemple, avec ces deux plans, c'est difficile de se projeter exactement à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, par exemple, il y a un passage possible pour le public? Ce genre de choses. Et donc, on a des outils. Bon, là, je ne vais pas tous les présenter. Mais du coup, par exemple, des outils qui permettent de faire un arrangement sur un rectangle. Donc ça, c'est par exemple pour la WFS sur 4 murs. Je vais juste vous présenter ça très rapidement. Hop. Ici, je peux dire, j'ai un quantitatif de 100 enceintes que je veux mettre sur un certain périmètre, et du coup, je vais pouvoir soit changer le quantitatif d'enceintes, soit changer les dimensions de notre salle, donc changer le placement de celle-ci dessus. Donc voilà, c'est des outils qui aident à la mise en place de ce type de dispositif. Hop, je reviens ici. Donc des outils d'arrangement, des outils de sélection, comme vous avez vu, de transformation. une capacité de visualiser en 3D qui permet d'avoir une idée de ce qu'on se représente. Donc on peut régler les algorithmes en utilisant directement ceux qui sont dans le SPAT et du coup se baser vraiment sur le véritable calcul et pas une estimation du calcul. Et donc on a des outils d'analyse, donc là vous en avez vu quelques-uns dans le Holo Immersive Matrix. On a aussi des capacités de le visualiser en 3D, parfois c'est Matrix, parce qu'en fait finalement c'est une map de planisphère, ce que je vous ai montré. Donc en fait on peut venir le représenter dans l'espace et valider aussi dans l'espace où est-ce qu'est cette zone, par exemple s'il y a une zone où on a un problème de localisation, mais en fait c'est où dans l'espace en 3D. Et ensuite on a des analyses, des outils d'analyse plutôt de projection et de sur l'espace. Et c'est là où il y a, on en parlera après, mais il y a un vrai projet de recherche qui est en train d'être monté là-dessus pour lier tous ces outils. Et après j'ai beaucoup travaillé sur la question du monitoring spatialisé. Parce que parfois on a des outils, on a des mesures, là je vous ai montré des graphiques, c'est super, mais en fait on a besoin d'entendre, savoir si ça va marcher, ça, avant même d'y être. Et du coup, bah, des outils qui permettent en binaural 6 degrés de liberté de se placer dans le lieu qu'on virtualise en disant voilà, j'ai ce lieu qui est simulé, on est en WFS, en ambisonie, tout ce que vous voulez, et je viens me placer dedans et écouter si j'étais à telle place dans le gradin, comment j'entends cette scène sonore qui est face à moi. Et donc ça permet aussi d'aider à la pré-production, la conception de ces dispositifs et savoir si ça a l'air de fonctionner ou pas. Et donc, j'ai essayé plusieurs approches, donc une approche en binaural, une approche avec ce qu'on appelle des microphones virtuels qui permettent par exemple de faire du done mix sur un dispositif d'enceinte. Donc j'ai mon studio en 5.0 et je veux écouter un dispositif que je simule mais qui est dans un autre schéma. Et bien, je crée par exemple 5 micros virtuels au milieu de ma scène qui viennent enregistrer le dispositif et je viens le simuler. Par exemple. Ça va être des approches comme ça. Donc voilà, deux approches qui font des mélanges. Et du coup, ce qui est très important après, c'est aussi d'aller sur le terrain, faire des dispositifs maquettes. Donc là, par exemple, vous voyez des tests qui ont été faits de cardioïcité. Bah, du coup, on va dans un champ et on teste si dans le champ, déjà, le montage cardioïde, il a l'air de fonctionner. Et puis, des mesures et des tests en réel. Donc là, par exemple, on a Avignon, on a un Egon Mike, on a une tête binaurale, un excitateur omnidirectionnel, et du coup on peut faire des mesures, des validations, des réponses actuelles en trois dimensions pour avoir une meilleure idée de tout ce qui se passe et aussi avoir des mesures précises et spatiales de la réponse de notre dispositif. Donc je suis désolé, ça a été un peu express sur la fin, mais voilà. Donc si vous avez des questions...
Dis-moi.
Sur la destination de cet outil, est-ce que donc là ça avait l'air très, très technique, plutôt orienté sur les color systems, les ingé-sons, est-ce qu'on pourrait imaginer en tant qu'artiste par exemple, si on a un dispositif un peu inouï d'enceinte, aussi utiliser ce genre d'outil pour pouvoir prédire un peu notre position d'enceinte en sachant qu'on va aller jouer, bah, je sais pas, chapelle par exemple, et aussi utiliser les outils de monitoring que tu proposes pour tester ce que va donner notre disposition d'enceinte et se dire bon bah finalement mon enceinte je vais pas la mettre derrière le mur là-bas mais à un autre endroit.
Totalement, en fait là justement l'idée de ce monitoring spatialisé c'est de vraiment de faire le plus possible la chaîne du signal de la même manière qu'elle sera au moment du concert. Donc on met nos enceintes, on met notre salle, on a notre multipiste ou quoi que ce soit, et vous envoyez les sources, vous les processez comme si vous étiez en concert, sauf qu'au lieu d'envoyer les canaux de sortie vers les enceintes, on les envoie vers l'outil de monitoring spatialisé, et on va pouvoir se déplacer dedans et écouter ce qui se passe. Et du coup, ça permet d'avoir une scène vraiment complexe, d'avoir prévu tout, et ce n'est pas un autre logiciel à part. Toute la chaîne de signal reste la même que celle que vous allez utiliser pour le spectacle, mais on remplace les enceintes par l'algorithme de monitoring et on monitore directement les sorties.
Merci.
Ouais.
Merci. Comment du coup tu modélises la salle? Est-ce que tu fais des réponses impulsives avant ou est-ce que tu lui donnes juste les dimensions et les matériaux des murs et tout ça? Comment ça, tu peux nous expliquer?
Pour l'instant, c'est vraiment c'est en free field le monitoring spatialisé. Il n'y a pas de simulation réelle de l'acoustique dans l'outil de monitoring spatialisé. Il y a la possibilité d'avoir des IR 3D qui peuvent être chargés, mais du coup, c'est à toi quand même de faire le réglage un peu. Donc, ce n'est pas encore c'est pas clé en main, on va dire.
J'ai fait ça. Une petite. Bravo pour ça. Question par rapport au package. Dans quelle mesure il est connecté au SPAT, au package SPAT? Est-ce que tu comptes le distribuer à travers le package manager comme je vois là, mais je ne l'ai pas vu là. Ou est-ce que ça va demander, ça sera plus privé ou ça sera plus...
C'est déjà sur GitHub, c'est open source. Je sais que c'est possible de mettre sur le package manager, mais je ne sais pas trop comment. Voilà. Mais ça serait l'idée. Il y a des outils. Donc, vous voyez, j'ai un hommage. Quand c'est marqué az.holo, c'est des outils qui sont déjà pré-pensés pour s'auto-calibrer en fait, avec Holophonix. Donc, par exemple, l'outil de monitoring, vous faites juste un bang et il se connecte à Holophonix. Il récupère toutes les informations de position d'enceinte, de canaux et il calibre tout. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a des outils de plus bas niveau derrière qui peuvent être utilisés pour se connecter en OSC à n'importe quoi, en fait. Donc, globalement, c'est une librairie de patchers. Il n'y a pas de MXO, il n'y a pas de choses comme ça. C'est plein d'outils que je développe en assemblant ce dont j'ai besoin. Donc, ça utilise beaucoup des outils du SPAT derrière. Mais ça peut être utilisé globalement pour à peu près n'importe quoi si vous avez la traduction de message OSC qui va derrière, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.